France Inter.
Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, un espoir de diagnostic rapide des troubles bipolaires. Enfer pour ceux qui les subissent en errance médicale. Aujourd'hui, une simple prise de sang pourrait changer la donne. Explication dans un instant. A-t-il été manipulé par une voyante? Le maire d'Agde, mis en examen et incarcéré depuis hier, soupçonné de détournement de fonds dans cette improbable affaire qu'on va vous raconter. Dans moins de 3 mois, les Européennes, Ali et Marion, les candidats sont au micro sur France Inter.
Deux invités pour démarrer ces vendredis consacrés aux élections européennes sur Inter. Pendant un mois, nous allons recevoir les principales têtes de liste. Les premiers aujourd'hui, donc Léon Desfontaines pour le PC, puis Marion Maréchal pour Reconquête.
Ils répondront à nos questions sur les enjeux de ce scrutin du 9 juin prochain et aux vôtres, chers auditeurs. N'hésitez pas à appeler au standard 01 45 24 7000 ou à poser vos questions sur l'application France Inter.
D'ici là, c'est le retour des soulèvements de la terre. Le collectif appelle à des actions à partir d'aujourd'hui, journée mondiale de l'eau, surveillée de très près par le gouvernement. La mort de Frédéric Mitterrand, homme de cinéma, de télévision, ministre, on reviendra sur ces mots couchés dans les livres. Et puis un test grandeur nature avant l'arrivée de la flamme olympique et le début des relais le 8 mai, ça se passe dans l'Aude. Aujourd'hui, sous l'œil du GIGN, on ne rigole pas, vous allez l'entendre, avec la sécurité de la flamme.
France Inter.
C'est un ennemi redoutable, comme disait l'animateur Sylvain Augier, mort samedi dernier. La bipolarité, maladie psychique qui toucherait jusqu'à 1 600 000 personnes en France. Parfois, ces troubles sont pris pour de la dépression. Alors, la maladie est beaucoup plus complexe, faite de hausses et de baisses d'humeur extrêmes, difficile à diagnostiquer. 8 à 10 ans en moyenne à partir de l'apparition des premiers symptômes. D'où l'importance de ce premier test sanguin qui différencie les troubles bipolaires de la dépression. Victor Delande, il sera disponible à partir du 1er avril sur prescription d'un psychiatre.
Dina Weissmann travaille depuis 30 ans sur le fonctionnement du cerveau et sur les signatures qui existent aussi dans le sang pour repérer certaines pathologies. Aujourd'hui cofondatrice et directrice médicale de la société Alcediag, elle a concentré ses recherches sur les différences entre la dépression et les troubles bipolaires.
Nous avons recherché dans ces deux populations de patients dépressifs si on pouvait avoir des signatures d'édition d'ARN avec des marqueurs spécifiques qui auraient été différents chez les patients souffrant de dépression unipolaire et les patients souffrant de dépression bipolaire. Et la réponse a été oui.
Deux études cliniques plus tard, ce test sanguin dépasse les 80% de fiabilité. Florian Scherrer, biologiste et directeur médical du réseau SYNLAB, explique le fonctionnement de ce test.
C'est un test qui utilise une technologie de pointe, c'est du séquençage de nouvelle génération. Et ensuite, on utilise en fait des algorithmes informatiques grâce à des technologies d'intelligence artificielle pour faire la différence entre le profil d'un patient atteint de troubles bipolaires et à un patient qui lui présente des troubles dépressifs.
Le coût reste pour l'instant un frein, 900 euros pour chaque test. Dans un deuxième temps, la Haute Autorité de Santé évaluera la possibilité d'une prise en charge et donc du remboursement par la Sécurité sociale.
Victor Delande, spécialiste santé de France Inter au chapitre santé aujourd'hui, c'est aussi le début du SIDAction jusqu'à dimanche, 30e édition depuis le lancement de l'opération. C'est toujours un combat. En France, 200 000 personnes vivent avec le VIH. Les dons récoltés servent chaque année à faire avancer la recherche.
Les 29 000 habitants d'Agde dans l'Hérault doivent sans doute se pincer pour y croire, Florence.
Depuis hier, le maire LR de leur ville, Gilles Détor, est en détention provisoire, mis en examen dans une stupéfiante affaire de détournement de fonds. Il est question de plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public, dont aurait bénéficié une voyante médium qui l'aurait manipulée, Elisabeth Badigny, en lui faisant croire qu'il conversait avec l'au-delà.
Cette voyante, le maire d'Agde l'a rencontrée en mai 2020. Ils étaient devenus très proches, dit-il. Il la considérait comme sa fille. Elle avait donc toute sa confiance. Il était même convaincu qu'elle avait des pouvoirs surnaturels. Mais cette femme a manifestement profité de cette confiance. Elle a reconnu en garde à vue qu'elle modifiait sa voix au téléphone auprès de nombreux interlocuteurs, y compris des membres de sa famille. Une voix d'apparence masculine, posée et rauque, elle se faisait ainsi passer pour un être surnaturel provenant de l'au-delà. Une voix qui les incitait à prendre soin de la voyante, y compris et surtout matériellement. C'est ainsi qu'elle a convaincu le maire d'Agde de lui faire de nombreux cadeaux, avec de l'argent public, mais aussi d'embaucher 5 personnes de son entourage, y compris son propre mari, devenu directeur des services techniques de la ville. Gilles Détor a persisté en garde à vue, convaincu de l'existence de cette cette voix. Il a fallu que les enquêteurs lui montrent une vidéo de la voyante, sa petite protégée, en train de modifier sa voix pour qu'il réalise avoir été victime d'une escroquerie. En revanche, il n'a reconnu aucun détournement d'argent.
Elisabeth Badinier, France Bleu, héros. Quand l'eau potable vient à manquer, c'est ce qui arrive trop souvent en Guadeloupe où le robinet ne coule qu'entre deux coupures. Plusieurs associations viennent donc de saisir le Conseil de l'Europe pour exiger que l'État prenne le sujet à bras-le-corps. Et en cette journée mondiale de l'eau, sous le signe du réchauffement climatique, on s'intéresse à l'eau de mer. De plus en plus de pays la dessalent pour assurer leurs besoins. Arabie Saoudite, Maroc, Espagne. Dans les Caraïbes, l'archipel de Saint-Christophe et Niévès vient de poser la première pierre d'un système made in France, alimenté par l'énergie solaire. Explication signée Sandy Dauphin.
Dans ce décor de carte postale des petites Antilles, palmiers, plages de sable fin et paysages volcaniques, les 50 000 habitants sont de plus en plus confrontés à un problème d'accès à l'eau potable. Maxime Thérillon est le directeur commercial d'Osmoson, l'entreprise française choisie pour le projet de dessalement d'eau de mer.
Il y a des sécheresses à répétition, les cyclones sont plus violents mais il y a moins d'eau potable et donc ils ont besoin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable et donc ils vont commencer à produire de l'eau à partir de l'eau de mer.
Les unités installées sur les deux îles sont assemblées en Eure-et-Loir dans les ateliers de Gélinville.
Cet équipement produit 13 mètres cubes par heure. L'eau de mer est pompée directement en mer, traverse ces filtres à sable, donc des grandes cuves dans lesquelles il y a du sable. Ça permet d'arrêter toutes les matières en suspension et ensuite d'avoir de l'eau propre pour l'envoyer dans le système de dessalement et donc dans ses membranes très fines.
Le dessalement de l'eau est gourmand en énergie. Le système est donc alimenté par des panneaux solaires.
Utiliser le solaire permet en fait de consommer une énergie verte et de simplement éviter les émissions de CO2 associées.
Face à l'essor du dessalement de l'eau dans le monde, les mises en garde se multiplient contre les risques environnementaux des saumures, les liquides chauds et salés rejetés à grande échelle en mer. À Saint-Christophe et Niévès, les études d'impact ont été approuvées. Les petites unités de dessalement devraient assurer entre 5 et 10% de l'eau consommée sur les deux îles.
Sandy Dauphin, en France, cette journée de l'eau marque le retour des soulèvements de la terre. Près d'un an après les affrontements de Sainte-Soline, le collectif appelle à converger vers le site des Deux-Sèvres à partir d'aujourd'hui et prévoit une série d'actions jusqu'aux Jeux Olympiques, surveillées comme le lait sur le feu par le gouvernement. Simon Le Baron qui avait tenté sans succès, on s'en souvient, de dissoudre le mouvement.
À l'Élysée, à Matignon, à l'agriculture, à la transition écologique, on suit cela d'un œil plus que vigilant, confie un conseiller du gouvernement. Mais surtout, on renvoie la balle au ministère de l'Intérieur. C'est un sujet de maintien de l'ordre, balaie l'entourage de Gabriel Attal. Il s'agit de ne pas donner trop de crédit à un mouvement dont la seule idée d'une invitation à débattre avec Emmanuel Macron avait mis le salon de l'agriculture en ébullition. D'ailleurs, l'équipe du Premier ministre assure que les soulèvements de la terre ne sont pas un interlocuteur. Ils ne faisaient pas partie des associations reçues il y a 8 jours à Matignon. Car la priorité absolue, c'est de sortir enfin de la crise agricole, avec 3 rendez-vous cruciaux la semaine prochaine. Une nouvelle réunion avec les syndicats, le congrès de la FNSEA et la présentation très attendue d'un projet de loi. Alors que les agriculteurs réclament des avancées, entre autres sur le stockage de l'eau, il ne faudrait pas que la mobilisation des anti-bassines perturbe la communication gouvernementale. Un conseiller anticipe, la réponse sera ferme en cas de débordement.
Simon Le Baron, qui était-il ? Homme de télé, fou de cinéma, ministre de la culture, Frédéric Mitterrand est mort hier avec ses passions. Il avait 76 ans, emporté par un cancer. Ces légendaires « bonsoir » vont nous manquer, dit Emmanuel Macron. Son phrasé était reconnaissable entre 1000. C'était aussi un homme de lettres, Ilan Amor Youssef, qui n'avait pas peur de livrer son intimité dans ses livres.
Il a toujours publié, et pas à la manière des politiques, pour qui le livre n'est qu'une étape dans la course au pouvoir. Frédéric Mitterrand, lui, écrivait pour se comprendre, pour dire qui il était, ses tourments, ses désirs, et il est arrivé que cela se retourne contre lui. En 2005 paraît « La mauvaise vie », dont la promotion se déroule sans incident, ici, sur France 2.
Dans le livre, je commence en rappelant une phrase que m'avait dit Delphine Seyrig, qui m'avait beaucoup frappé, touché, qui me poursuit, à laquelle je pense sans cesse, qui est « Si vous faites l'amour avec quelqu'un et que vous payez, c'est qu'il y a quelque chose de malade en vous. »
Quand il devient ministre, 4 ans plus tard, la mauvaise vie lui revient comme un boomerang. Il prend la défense de Polanski, accusé de viol sur mineur. Marine Le Pen en profite pour exhumer les passages où il raconte ses virées dans les bordels de Bangkok. Frédéric Mitterrand a aussi été un formidable mémorialiste. Impossible de lire la récréation, récit de son passage au ministère de la Culture, sans sourire à ses traits d'esprit. Enfin, il y a le Frédéric Mitterrand grand lecteur, il parlait magnifiquement des livres, il a brièvement dirigé les éditions Bourgois, rachetées par son frère Olivier, et surtout, il siégeait au jury du prix Médicis, où ses plaidoyers passionnés en faveur de tel ou tel livre ont plus d'une fois emporté la conviction des autres jurés.
Ilana Mor-Youssef, Frédéric Mitterrand portait sa mélancolie comme une élégance, hommage parmi bien d'autres de Rachid Hadati, ministre de la Culture, 12 ans après lui. Israël, sous la pression de ses alliés, les États-Unis soumettront aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Demande appuyée par les 27 chefs d'État européens qui exhortent eux aussi Israël à ne pas mener d'opération terrestre à Rafah. Là-bas, on a coutume de dire que le dollar est roi. C'est vrai plus que jamais en période de campagne électorale aux États-Unis. Trump, Biden, on connaît l'affiche, duel politique. Côté finance, Sébastien Paour, vous êtes à Washington, le président sortant a une bonne longueur d'avance.
Trump prend le large dans les sondages, mais c'est Biden qui est devant à la banque. Le président démocrate a aujourd'hui dans ses caisses de campagne plus du double de ce que possède son adversaire républicain. 71 millions de dollars pour Biden, 33,5 millions pour Trump. Chiffres officiels d'après les documents déposés cette semaine par les deux camps auprès de la Commission électorale fédérale. Dans le détail, l'ancien président a récolté plus de 3 millions de dollars en février, là où le sortant en a obtenu 15. Mais Trump dépense beaucoup plus avec ses frais de justice, 50 millions de dollars l'an dernier en honoraires d'avocat, près de 6 millions rien qu'en février, sans compter le quasi demi-milliard à trouver avant lundi pour éviter des saisies dans le procès pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Alors il multiplie les événements pour courtiser les grands financiers du Parti républicain, des dîners privés organisés dans sa résidence de Floride. Même Elon Musk y était il y a moins de 3 semaines, mais officiellement Trump n'a pas demandé d'argent au patron de Tesla. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
L'Amérique où l'art de la communication à l'extérieur des frontières a consommé depuis l'après-guerre et jusqu'à aujourd'hui. Pour preuve, ces rencontres organisées par l'ambassade américaine en France dans des collèges et des lycées. Le collège Joséphine Baker de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis recevait hier Madame l'ambassadrice. 18 élèves face à la diplomate en cette année du 80e anniversaire du débarquement. C'est un reportage de Faustine Calmel.
Une ambassadrice dans la salle polyvalente de mémoire de collégiens, on n'avait jamais vu ça.
Moi, je ne m'attendais pas à autant de polixés.
En mode service secret et oreillette, comme si une série américaine débarquait dans l'établissement, drapeau américain sur l'estrade, chacun se présente.
Hello, my name is Serene and I have everything related to aeronautics.
La discussion porte sur le métier de Denise Bauer, son parcours. Elle a participé à la campagne de Joe Biden il y a 4 ans, sa vie en France.
I love Paris.
Une occasion pour Mariama de pratiquer son anglais.
J'ai cru que j'allais rien comprendre, mais j'ai compris, elle a été très sympa.
Your English is great.
Et pour tous de réfléchir au lien entre la France et les États-Unis, Denise Bauer.
Nos vétérans et ceux qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale vieillissent et c'est essentiel que nous transmettions leurs leçons. On voit avec ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde que ces leçons sont incroyablement importantes, comme l'est aussi le partenariat entre nos deux pays.
Donc en troisième, ils travaillent sur la Seconde Guerre mondiale.
Anthony Manzi, professeur d'anglais.
Ils savent quand même que les États-Unis sont un allié, qu'il y a aussi l'histoire de la libération. Puis c'est quand même un pays qui les fait rêver. Hein. C'est un endroit où ils ont envie d'aller.
Avec les séries américaines, etc. D'ailleurs, moi aussi, je les idéalise.
À défaut de voyage outre-Atlantique, les élèves seront reçus à l'ambassade américaine à Paris dans les semaines qui viennent.
Faustine Calmel, 12 cyclistes fauchés sur une route d'Ille-et-Vilaine hier, heurtés par une voiture. L'un d'entre eux est mort. Il avait une quarantaine d'années. Un autre a été gravement blessé. Le conducteur de 18 ans a été placé en garde à vue. Encore raté, à 4 mois des Jeux Olympiques, Kevin Mayer abandonne en plein décathlon à San Diego. Il n'a plus terminé cette épreuve faite de 10 épreuves justement depuis son titre mondial il y a 2 ans. Il lui reste jusqu'au 30 juin pour espérer se qualifier pour les Jeux. Des Jeux indissociables de la flamme olympique et du relais qui l'emmène jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Arrivée prévue sur le sol français le 8 mai à Marseille. Début du parcours de 68 jours ultra surveillé par les autorités. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous êtes dans l'Aube à Troyes où un test grandeur nature est organisé aujourd'hui pour tout vérifier. Comment ça va se passer, Jérôme ?
Eh bien, écoutez, les premières foulées des porteurs, c'est dans quelques minutes maintenant du côté de l'abbaye de Clairvaux à l'est de Troyes. Il y aura au total 6 portions qui seront testées lors de cette simulation grandeur nature. 90 relayeurs fictifs qui vont courir à une allure moyenne de 4 km/h et sous étroite surveillance. 120 policiers et gendarmes dont le GIGN les escorteront. Une unité de 100 agents supplémentaires sera positionnée à l'avant et à l'arrière du convoi, sans compter ce que l'on surnomme les gardiens de la flamme. En fait, ils sont recrutés par les ministères de l'Intérieur et des Armées et ils vont veiller au respect de tous les gestes autour de la torche, par exemple le passage de main en main. Alors cette répétition générale a une ambition, s'assurer que le dispositif est bien rodé avant le vrai relais de la flamme avec ses 11 000 porteurs. Mais Florence, une grande différence aujourd'hui dans l'Aube, la torche est éteinte, impossible d'allumer la flamme avant le 16 avril et la traditionnelle cérémonie à Olympie en Grèce.
Eh ben, on attend la lumière, merci Jérôme Val en direct de Troyes dans l'Aube.
C'était le journal de Florence Paracuelos. Nous sommes le 22 mars et il est 8h16 sur Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Le conseil du jour, Céline Dacosta, profitons encore aujourd'hui de cette ambiance printanière.
Oui, parce que le changement de temps, c'est pour demain. Il s'amorce déjà ce matin par les côtes de la Manche avec une dégradation qui apporte un ciel bien nuageux, quelques ondées dans la matinée. Sur le reste de la moitié nord, pas mal de brumes, de brouillards qui vont se dissiper plus ou moins rapidement. Des brouillards qu'on retrouve jusque sur le quart sud-ouest. Pour le reste de la moitié nord et le flanc est, c'est déjà pas mal ensoleillé. Le tout dans une ambiance parfois un petit peu fraîche, 5 degrés à Alençon pour la plus basse, 6 à Aurillac, 8 à Rennes et Tours, 9 à Strasbourg ou Brest, mais plutôt douce ailleurs, puisque la moyenne, surtout sur la moitié sud, va de 12 à 17 degrés.
Et cet après-midi ?
Alors, ce sera toujours couvert, faiblement pluvieux sur les bords de Manche, avec un vent qui va se renforcer, mais pour le reste du pays, le soleil sera encore de la partie, avec un petit peu plus de passages nuageux sur la moitié nord, quelques grisailles possibles sur les côtes atlantiques. On en profitera encore cet après-midi, et surtout, on va profiter des températures agréable avec une moyenne de 15 à 24 degrés du nord au sud. Un petit peu moins sous les nuages près de la Manche avec 11 à Dunkerque, 12 à Cherbourg, 13 à Brest.
Merci Céline Dacosta, merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h17.